Nous avons croisé il y a quelques semaines le chemin d'Astrid et Margot, cofondatrices de la maison d'édition de jeux En Cavale. Elles nous ont présenté avec une passion débordante les jeux En Cavale, conçus comme des enquêtes interactives mais sans écran, qui plongent les enfants devenus espions dans des aventures au format inédit. Correspondance postale, décors à construire, histoire à écouter, etc. Nous avons instantanément été séduites par le jeu par correspondance postale, où chaque mois l'enfant mène l'enquête grâce à un échange par courrier. C'est du made in France avec un esthétisme qui nous donne à nous, adultes, envie de s'y plonger aussi. Quatre thématiques sont proposées. L'espace, les fonds marins, le monde des insectes et une toute nouvelle enquête sur les sciences et la magie. Bref, un super cadeau à offrir en allant sur le site www.en-caval.fr. En plus, avec le code promo DEMAIN, tout en majuscule, bénéficiez de moins 10% sur les enquêtes de 6 et 12 mois. À très vite. Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. J'aime tellement ce qu'Héloïse transmet tous les jours autour de la parentalité. C'est donc une grande joie pour moi d'échanger avec elle aujourd'hui autour d'un sujet particulièrement fort pour moi, la fratrie. Nous avons échangé autour des dynamiques familiales, de la gestion des conflits, de l'impact de l'écart d'âge entre frères et sœurs, et plein d'autres sujets. Un moment rassurant pour tous les parents qui peuvent culpabiliser, surtout lorsqu'il s'agit d'harmonie familiale. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Héloïse.
Bonjour Stéphanie.
Je suis ravie de vous avoir enfin parmi nous pour parler d'un sujet qui en plus me parle beaucoup, la fratrie. Venant d'une famille de 5 frères et sœurs, j'ai été évidemment très inspirée lors de la préparation de l'interview, et donc je vais très vite vous laisser la parole. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter auprès de mes auditeurs, mais brièvement, vous êtes psychologue pour les enfants, docteur en psychologie, autrice à très grand succès, et vous avez également un compte Instagram, la Psy Contre-Attaque, avec des publications que j'adore suivre. En termes de parentalité, vous êtes donc devenue une incontournable en France. Et pour démarrer cette conversation, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi la dynamique de fratrie est un sujet qui parfois inquiète tant les parents.
Alors, c'est intéressant de voir que la fratrie, souvent, elle est souvent idéalisée par les parents. Avant même qu'ils aient un deuxième enfant, en fait, ils imaginent des enfants qui sont en train de jouer ensemble, qui sont complices, qui sont avec une grande connivence. Et en fait, quand le deuxième enfant ou le troisième enfant, le quatrième enfant naît, ils se rendent compte qu'il y a une forme de désillusion et c'est un vrai sujet de réflexion pour eux, de problématiques, de, en termes de régulation des conflits. Donc, c'est vraiment un sujet qui revient très souvent chez les familles du moment qu'un deuxième enfant naît, en fait.
Et qu'est-ce qui peut se passer au sein de la tête d'un enfant lorsque sa famille s'apprête à s'agrandir?
Alors justement, ce qui est intéressant de voir, alors ça dépend vraiment de l'âge de l'aîné, hein, parce qu'un aîné qui a 3 ans, comme c'est souvent le cas, 3-4 ans, ou un enfant qui a déjà 6-7-8 ans, c'est pas du tout le même enjeu. Pour un enfant qui a 3-4 ans, ce qui est quand même assez majoritairement le cas encore aujourd'hui, il faut savoir qu'ils sont pas encore dans l'abstrait, ils sont en concret, dans le physique, encore beaucoup dans l'instant présent. Et du coup, l'idée qu'il y a un autre enfant qui arrive dans 6 mois, 9 mois, déjà période qui ne veut absolument rien dire pour eux, et que quand c'est un bébé qui arrive, le bébé, ils ne le perçoivent pas vraiment comme nous, on le perçoit, avec tous les enjeux temporels, les enjeux psychiques, les enjeux d'organisation au quotidien, en fait. Donc, c'est vraiment très compliqué pour eux d'anticiper, de se projeter en fait dans la situation. Il y a beaucoup d'enfants qui ne réagissent pas forcément pendant la grossesse, il y en a qui vont réagir après, il y en a qui vont réagir avant, il y en a qui vont réagir à l'accouchement, mais ça dépend aussi de leur capacité en fait à comprendre ce qui se passe et la manière dont ils vivent l'événement en fait.
Oui. Vous avez des conseils sur la manière d'annoncer à son enfant que l'on attend un autre enfant?
Alors ça, c'est vraiment propre à chacun. En fait, je n'aurais pas d'acquis-motif à donner. Mais néanmoins, ce qui est intéressant de faire, et ce que je remarque dans les familles que j'accompagne aussi, c'est de ne pas trop attendre. En fait, beaucoup de familles se disent on va attendre qu'on soit sûr, voilà, qu'on passe le premier trimestre. Après, on soit sûr que l'enfant, le fœtus soit bien accroché, enfin, l'embryon soit bien accroché. Alors oui et non, parce qu'en fait, Enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on attend un bébé, quand on est parent, quand on sait qu'on est enceinte, notamment en tant que femme, aussi en tant que papa, c'est qu'on change. Notre discussion change, notre communication non-verbale change, notre fatigue change. Alors, surtout pour mes trimestres, qui est quand même un trimestre assez difficile à vivre. Et donc, en fait, dans tous les cas, l'enfant, il sent les signaux qui lui parviennent. Enfin, tous les signaux non-verbaux de manque de disponibilité, de manque de patience, bah, le tout petit, il les sent, il les a en pleine tête, en fait, ce qui est normal. Donc, ne pas mettre de mots dessus, ça me paraît un peu compliqué pour lui. Donc, le mieux, en fait, c'est que dès qu'on sait qu'il y a une grande nouvelle qui nous arrive, on n'est pas obligé de parler de bébé tout de suite, mais en tout cas, on peut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. En tout cas, expliquer qu'il y a quelque chose qui se prépare pour pas que l'enfant soit dans la forme d'incongruence entre la communication purement verbale et la communication non verbale.
Et comment réagir si, justement, la réaction de son enfant peut paraître perturbée et difficile également pour les parents à gérer?
Pour l'aîné, vous voulez dire?
Oui.
Déjà, en fait, ce qui est intéressant de prendre en considération, c'est de ne pas lui en vouloir. C'est très difficile parce qu'on se dit, oui, mais il est grand, il peut attendre, il est grand, il peut prendre sur lui. Mais en fait, non, parce que généralement, les grands sont encore tout petits. Et c'est des êtres humains encore tout rikiki. Et en fait, ils ont cette immaturité qui les caractérise. Et donc déjà, ne pas lui en vouloir. Et en fait, comprendre que quand il y a un petit frère ou une petite sœur qui naît, bah, c'est un tsunami. C'est un tsunami énorme pour la vie de l'enfant. Il n'a plus ses parents pour lui tout seul. Il n'a plus cette exclusivité pour laquelle il était programmé et à laquelle il était habitué. Donc, il y a un vrai changement de vie, en fait. Et souvent, bah, généralement, c'est ce qu'on dit dans la théorie de l'attachement, hein, ça vient réactiver son système d'attachement. Donc, il va vouloir retrouver, en fait, la proximité de sa figure d'attachement principale. Donc, ça peut être sa maman, ça peut être son papa. Donc, il est programmé, en fait, pour que quand il y a un environnement comme ça qui devient un peu menaçant, bouleversant, il est programmé pour retrouver la proximité de son parent. Vraiment dispo. Donc voilà, donc c'est juste pour prendre en compte que c'est pas pour l'excuser entièrement, c'est juste que comprendre en fait ce que vit l'enfant, l'aîné, pour ne pas trop oublier ses besoins à lui en fait. Mais c'est très compliqué, hein, ça, mais moi je suis pas arrivée avec mes enfants. Hein.
Et on voit parfois aussi chez certains enfants, justement, quand chez l'aîné, quand son petit frère ou sa petite sœur arrive, qu'il peut avoir des comportements assez violents à son égard. Comment est-ce qu'on peut réagir en tant que parent?
C'est vrai que c'est très compliqué. C'est vraiment parce que beaucoup de parents, en fait, me disent que c'est pour eux, c'est une vraie. Enfin, là, il y a un vrai deuil de la fratrie à faire, en fait. Là, il y a une vraie désillusion. Tous les parents me disent au début, oui, le grand frère ou la grande sœur, elle est hyper contente que l'enfant arrive, il fait des bisous partout, il habille la chambre, quand l'enfant est là, ils sont tout câlins, tout tendres. Et au bout d'un moment, ça change, en fait. Genre, aucune fratrie, j'ai vu de changement. Bon, mais c'est vraiment quelque chose qui va arriver. Et souvent, je dis aux parents, je dis, oui, ok, là, il est tout petit, mais quand il va se déplacer, quand il va commencer à faire tomber les tours du grand, à faire du quatre pattes, à mettre en bouche ses jouets, mettre de la bave partout, ben le grand, légitimement, il va se sentir un peu intrusé et il va réagir, en fait. Donc, cette lune de miel, on va dire comme ça, elle va pas durer toute la vie, quoi. Et en fait, quand il y a un comportement comme ça, alors, je sais pas si on peut parler d'enfant violent, enfin, en tout cas, c'est une forme d'agressivité un peu. Voilà, une forme d'agressivité du grand vers le petit, elle est classique, elle est naturelle, et c'est pas qu'on est un mauvais parent ou que c'est un mauvais enfant, pas du tout. Elle arrive dans tous les cas, elle arrive. Et la fratrie est faite de conflits et d'agressivité comme ça, réciproque. Et en fait, comment réagir à ce moment-là? L'idée, idéalement, vraiment, c'est idéalement, quand on est bien reposé, quand on a un bon timing, quand on est vraiment détendu entre parents, c'est de ne pas le prendre comme un coupable, sortir de cette régulation des conflits victime-agresseur, qui va venir renforcer sinon le côté agresseur de l'enfant et sa frustration, mais plus réguler les conflits comme un modérateur ou un médiateur. Et moi, ça change tout. Vous voyez, on n'est plus dans la dynamique agresseur-victime, on est vraiment dans la dynamique deux enfants qui ont rencontré un conflit. Effectivement, il y en a un qui a tapé sur l'autre alors que l'autre n'a pas tapé sur l'un, mais n'empêche que c'est souvent bilatéral, en fait, un conflit. Il y a souvent quelque chose qui se passe des deux côtés. Et faut vraiment éviter, mais c'est dur à faire, hein. Mais il faut éviter de charger le grand comme un agresseur et de lui mettre cette étiquette sur le dos. Sinon, ça va renforcer son agressivité et ça va renforcer la fréquence des conflits. Et cette étude nous montre vraiment clairement. C'est-à-dire que du moment que l'un des enfants dans la fratrie, quand ils sont petits ou quand ils sont plus grands, ressort avec un sentiment d'injustice, ça renforce les conflits. Ça renforce la fréquence des conflits et l'intensité des conflits.
Super intéressant.
Et j'aimerais bien maintenant qu'on parle des différentes places que l'on attribue dans une fratrie. J'ai l'impression qu'il y a tout un mythe autour de la place de l'aîné, autour de la place du petit dernier. Qu'est-ce que vous pensez de ces attributs, souvent que l'on donne à chaque place que l'enfant occupe dans la famille?
Alors, en fait, c'est une question super intéressante. Alors déjà, ce qui est drôle, c'est que nous, là, tous, enfin vous et moi, je pense que vous êtes première de fratrie, deuxième, troisième.
Quatrième.
Quatrième. Ah ouais, quatrième. Moi, je suis dernière. C'est selon la manière dont on a vécu soi-même, dans quel rang de fratrie on était nous-mêmes. On a déjà des projections, des attentes particulières par rapport à ce rang de la fratrie. C'est intéressant de voir que notre histoire va quand même influencer, colorer notre manière de percevoir le premier fratrie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Enfin, ça, c'est assez évident. Après, rien n'est figé pour autant. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le premier, dans les études, ce qu'on remarque, c'est que le premier, il se prend en pleine tête tous les idéaux parentaux. Alors, les idéaux parentaux, la stimulation de l'enfant, les attentes sociétales, sociales. Enfin, le premier, c'est vraiment l'enfant, vraiment. C'est pas un enfant idéal, mais c'est un enfant. C'est le premier enfant qui du coup va mettre un peu, va expérimenter toutes les attentes de son parent. C'est souvent l'enfant qui va être le plus stimulé. Alors, dans les recherches, on voit que c'est celui qui réussit le mieux scolairement. Alors, plus on est en tête de rang, j'ai envie de dire, de fratrie, plus on se serait susceptible de réussir scolairement de manière académique parce qu'on est beaucoup, beaucoup stimulé par ses parents de manière individuelle, ce qui est moins le cas des 2, 3, 4, 5, hein, clairement. Et donc, on remarque dans les études, mais pareil, ce sont des recherches avec des cohortes, mais c'est pas vraiment la vraie vie, mais que ces enfants-là ont tendance aussi à être plus conformistes, plus proches du cadre, donc à plus se conformer aux attentes sociales. Alors que les derniers de fratrie, ceux qui arrivent à la fin, ils sont généralement plus dans une dynamique un peu de créativité, ils sont plus en roue libre en fait. Donc ils développeraient davantage, et je mets bien le conditionnel, cette capacité de libre arbitre, cette créativité.
Et comment arriver en tant que parent à justement pas projeter ces attributs auxquels on pense, notamment sur la place de l'aîné qui est toujours si particulière, etc.
C'est hyper complexe. Enfin, ça dépend tellement de son histoire, de chacun. Alors, si vraiment la place de l'aîné, si vraiment le parent a ressenti une injustice, il est très, très fort dans la fratrie, il faut l'éviter au maximum. Si vraiment le parent adulte, il a ressenti lui-même, étant enfant, un sentiment d'injustice qui était répété, où le parent, tenait par exemple tout le temps avec l'aîné, et toujours au détriment du petit, ou inversement, il y a une sorte de certitude, néanmoins, toute réserve, vraiment, toute confondue, que cette sentiment d'injustice va venir peut-être se projeter sur la manière dont il perçoit l'aîné. En partie, ça va venir colorer. Le mieux, si on peut, alors soit c'est light, c'est la vie de tous les jours, on en a tous, un sentiment d'injustice, ça arrive. On prend sur nous, on en prend conscience et on essaie de réévaluer ça au quotidien. Donc, une forme de prise de conscience suffirait. Mais si c'est vraiment trop fort, on voit qu'il y a des psychotraumas associés, que c'est compliqué, ça s'inscrit vraiment dans notre identité, c'est pas mal, je trouve, d'aller consulter un psy, psychologue, le temps de 2-3 consultations, après, à voir avec l'approche. Mais en fait, il y a deux approches qui sont pas mal, je trouve. Alors, tout ce qui est psychotrauma, on le dit aujourd'hui, hein, c'est l'approche, le MDR. Hein. On connaît bien une approche de psychotrauma, donc c'est pas MDR, on n'est pas mort de rire, hein, c'est EMDR, ceux qui... Voilà. Donc c'est une technique de psychotrauma qui marche bien pour des traumas plus ponctuels. Ça peut arriver, hein, dans la fratrie, d'avoir des traumas comme ça. Ça peut être l'approche... Alors, ce qui est bien aussi, c'est l'approche systémique. En fait, on va aborder la famille comme un système, et nous-mêmes, quand on va voir un thérapeute systémique, même si on va en voir un seul, cette approche de la famille comme un système avec la fratrie qui va influencer un peu tout le système peut être intéressant aussi pour essayer de revisiter un peu notre propre enfance, notre propre relation à la fratrie, ou alors aussi tout ce qui est ICV, hein, l'intégration du cycle de la vie, qui est la petite sœur de l'EMDR, pour un peu les traumas plus complexes. Donc il y a plusieurs vraiment approches qui sont bien. Et bien sûr, la TCC, la thérapie collective comportementale, qui peut aussi donner des effets intéressants pour notre relation aux autres, notre perception, nos cognitions également.
Et est-ce qu'on peut accepter en tant que parents que nos enfants ne s'entendent pas ou ne s'aiment pas entre eux?
Ah, ça, c'est vraiment le travail d'une vie, en fait.
Ouais.
C'est vrai que c'est trop drôle, mais parce que la dernière fois, il y a eu une amie qui m'a appelé justement pour me dire, oui, mon grand, il avait, je crois, il devait avoir 6 ans, il a renversé la poussette dans laquelle était son petit frère. Et en fait, elle était complètement scandalisée. C'est l'une des premières fois, en fait, je pense, qu'il manifestait autant d'agressivité. Elle était scandalisée, elle était outrée. Elle disait, mais c'est pas possible. Et en fait, je dis, mais en fait, c'est sain, et je pense que le premier travail qu'on a à faire en tant que parent, c'est vraiment accepter l'idée que nos enfants ne s'aiment pas forcément tout le temps.
Parce que vous pensez pas qu'il y a quand même un certain poids de l'éducation sur les relations entre frères et sœurs? Je parle en termes, par exemple, de fratries où on voit qu'il y a une très grande complicité, ou au contraire, des fratries qui vont énormément se déchirer.
Alors en fait, il y a plein de facteurs, qui vont influencer la qualité d'une fratrie. Déjà, petit 1, il y a le tempérament. Enfin, clairement, il y a le tempérament. Le tempérament, on le distingue, il y a le tempérament qu'on appelle faiblement réactif, où l'enfant a un cerveau qui est très peu réactif par rapport à la stimulation, donc il se mettra moins en émotion que les autres, il se mettra moins en colère, il sentira moins de stress que les autres, il sera plus souriant. Et de l'autre côté du continuum, vous avez le tempérament hautement réactif, avec les enfants qui, avec un cerveau qui va réagir très fortement à la stimulation. Donc clairement, si vous avez une fratrie avec deux tempéraments hautement réactifs, on augmente, au moins un des deux, on augmente les fréquences des conflits, parce qu'en fait, on va augmenter la probabilité que le cerveau soit, se sente en danger ou en stress, et du coup passe à l'agressivité ou passe à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Le tempérament, c'est important. Il y a aussi tout ce qui est écartage. On voit que les écartages de, je crois que c'est 3-4 ans et moins, vont créer plus de sentiments de concurrence entre les enfants, parce qu'ils sont très proches, enfin, parce qu'ils sont, voilà, c'était tout petit tous les deux, alors qu'un écartage de 6 ans et plus limitera la fréquence des conflits. En même temps, je veux dire, quand on a 6 ans et plus d'écart avec son frère ou sa sœur, il y a aussi moins d'intérêts communs. Donc, je pense qu'il n'y a aucun écartage qui est idéal. Mais après, et après vous avez raison, tout ce qui est éducation, ça a aussi un impact. Enfin, comme je disais tout à l'heure, la manière dont on va réguler les conflits, ça va énormément influencer l'entente entre les enfants. Plus on est justicier, plus on cherche un coupable dans le conflit, et plus on va alimenter cette frustration de l'un ou de l'autre, et plus on va augmenter le sentiment d'injustice, et donc, du coup, la mésentente dans la fratrie. Ça, c'est sûr, hein, c'est quelque chose qui était, je pense, l'une des données qui l'a plus éprouvée par la recherche sur la fratrie aujourd'hui. Et après, bien sûr, tout ce qui est éducation de manière générale, par exemple, dans les recherches, on voit que l'éducation plus autoritaire et punitive, qui est encore quand même prédominante en France et qui a été prédominante des siècles et des siècles durant dans notre pays, cette éducation crée augmente le risque de mal-être chez l'enfant, de manque de confiance en lui, et donc du coup, quelque part aussi, va plus alimenter la mésentente entre les enfants. Ça peut en tout cas. Ce qui est idéal en termes d'éducation, ce serait plus une éducation de type démocratique. On va poser un cadre de manière non violente en respectant en fait chaque enfant de la fratrie. Ça, c'est vraiment le top. Mais bon, faut être reposé pour le faire aussi. Hein. Ça n'existe pas, le parent parfait, la fratrie parfaite non plus d'ailleurs.
Ouais. Et ça veut dire qu'en tant que parent, on n'est pas obligé de marteler à nos enfants qu'ils doivent s'aimer entre eux.
Eh bien oui, ça c'est une vraie réflexion intéressante. Oui, complètement. Il ne faut pas remettre cette pression-là, en fait. En fait, on a le droit de... Et d'ailleurs, je conclue, il me semble, le livre « Moi de Mance, petite sœur ». En fait, un frère et une sœur, déjà, petit 1, c'est pour la vie. C'est la relation la plus longue qu'ils auront de toute leur vie. Donc, c'est vraiment une relation qui est particulière. Elle va connaître des hauts et des bas. Et l'enfant a le droit, un jour, de détester sa sœur, un autre jour, de l'adorer. Il a le droit, un jour, de la câliner, et un jour, de la pousser, parce que c'est partie de la vie de la fratrie, en fait. Il ne faut pas idéaliser non plus cette relation de fratrie avec l'enfant. Il ne faut pas mettre une pression qui est inutile. De toute façon, il n'arrivera jamais à ça. Et nous-mêmes, on a des relations de fratrie qui ne sont pas forcément terribles, avec c'est en dents de scie, en fait. Ça améliore avec l'âge ou pas. Ou... Avec l'héritage, ça déjà, généralement, il y a des conflits qui peuvent naître dans la fratrie. Enfin, donc, c'est une relation qui vit, en fait, toute la vie.
Ce que j'aime bien, c'est que du coup, vous mettez bien en avant qu'en tant que parent, on n'a pas besoin de culpabiliser si, en effet, les relations entre nos enfants ne sont pas idéales.
Oui, complètement. C'est pas parce qu'on est des parents nuls que ça ne marche pas, que nos enfants ne s'entendent pas. C'est parce qu'une fratrie, c'est compliqué. En fait, c'est tout ce qui est promiscuité et cohabitation. Vous voyez, c'est quand même une relation unique où il y a des personnes qui vivent dans un même foyer. Enfin, c'est quand même pas rien. Et la promiscuité fait que ça alimente forcément ça peut que vivre, en fait, dans des émotions agréables et désagréables. C'est ça qui est aussi dynamique. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que dans les recherches, c'est quand les enfants, alors quand on a dans les familles, dans une forme de précarité, ou par exemple, on manque d'espace, ou il y a une chambre pour 5, 3, 4, 5 enfants, chaque enfant manquant un peu de son espace personnel peut se sentir plus facilement intrusé, et ça peut créer davantage de conflits. Alors que l'idée d'avoir un peu d'espace pour chacun, ce serait potentiellement plus confortable pour leur tolérance à la frustration liée à la fratrie, en fait. Mais bon, après, c'est des données, dans la vraie vie, on rencontre de tout. Hein. Des enfants qui vivent dans un château avec 300 mètres carrés chacun et qui ne s'entendent pas pour autant. Donc,
Et si on parle justement de cet aspect matériel, est-ce que il faut forcer son enfant à prêter ses affaires à son frère ou sa sœur ?
Ah, c'est une vraie question. Alors, ça dépend de son âge. Déjà, tout petit, avant 4-5 ans, c'est très compliqué pour eux de prêter. Même après, c'est compliqué aussi. Enfin, même pour vous, hein. Je ne sais pas si vous prêtez vos affaires à vos frères et sœurs régulièrement.
Moi, j'ai mis du temps à prêter mes vêtements. C'était très dur.
Ouais, ma petite sœur. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai que c'est une attente qu'on a, nous, en tant que parents. Je crois que le prêt de jouer, c'est comme si pour nous, c'était un acte presque social, sociétal. Vous voyez, c'est un acte hyper important. Mais même nous, en fait, on prête quand même très peu nos objets, alors qu'on a passé l'âge des 5-6 ans. Donc, ouais, je mettrais beaucoup moins je mettrais pas d'injonction pour les enfants ni les parents pour prêter. Je pense qu'il faut vraiment respecter l'enfant, en fait, dans sa globalité. Et se dire que plus l'enfant sera respecté aussi dans son point de vue, dans ses émotions, celui qui veut pas prêter, hein, plus il sera cool avec le petit frère, la petite sœur, et plus il voudra peut-être prêter de lui-même, en fait, mais. En tout cas, respecter l'enfant, respecter tous les enfants, et se respecter soi-même aussi d'ailleurs, et pas d'attente idéaliste non plus, irréaliste.
Vous en avez parlé tout à l'heure de la différence d'âge entre frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez autre chose d'intéressant à partager. J'aime beaucoup ce que vous partagez autour des études. Je ne sais pas s'il y a autre chose autour des écarts d'âge, si vous avez un point de vue sur les différences d'âge entre frères et sœurs.
Alors, pas tant que ça. C'est vraiment, en fait, ce qu'on voit vraiment dans la recherche, hein, c'est ce que je disais. Je n'ai pas trop d'informations en plus, mais. En fait, quand l'écart d'âge est plus limité, c'est sûr que ça augmente la fréquence des conflits. C'est ce qu'on voit, en tout cas, du moins dans les données, parce qu'ils ont des besoins forts d'individualité, d'exclusivité chacun. Et quand l'écart d'âge est plus important, évidemment, ça limite la fréquence des conflits. Mais après, enfin, ça c'est toujours compliqué parce que les parents se disent ah, j'aurais dû mettre plus d'écart d'âge entre les deux enfants. Ça m'est arrivé, hein, une fois, j'avais fait une intervention sur ce sujet, je ne sais plus dans quel cadre. Il y a longtemps, il y a un parent m'avait dit, à juste titre, il m'a dit, là, j'avais tellement hésité entre avoir 6 ans d'écart d'âge et avoir 4 ans. Je regrette, en fait. Non, c'est que les écarts d'âge, faut faire vraiment attention. C'est juste c'est un peu une ligne directrice qu'on voit, qui se dégage des corpus de recherche. Mais sur le terrain, il y a une telle variabilité parce que, l'entente dans la fratrie, on l'a vu, elle dépend de tellement de facteurs. Il n'y a pas que l'écart d'âge qui entre en jeu, en fait, très clairement. Et c'est juste que quand l'aîné est jeune quand le petit naît, il faut juste, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut juste pas oublier que c'est un tout petit enfant et qu'il a énormément, énormément de besoins satisfaits et que le cerveau n'est pas mature avant 25-30 ans et qu'il a vraiment tout le temps d'avoir des comportements que nous, on a en tant qu'adultes. C'est tout ça, en fait, je pense, la grande complexité. C'est notre regard qu'on porte sur l'aîné.
Comment on peut faire pour éviter la concurrence dont vous avez parlé qui peut s'installer entre les frères et sœurs, la compétition ?
Déjà, peut-être, ce qui est pas mal de faire, c'est faire plus de jeux coopératifs que de jeux de compétition. Ce qui, genre le premier verger, je sais pas moi, Little Coopération pour les tout petits, je sais pas si quelle marque il le fait. Enfin, il y a quand même pas mal de jeux de coopération, et ce qui est bien, c'est pour renforcer aussi le lien dans la fratrie, c'est d'éviter de les mettre les uns contre les autres déjà pendant les jeux familiaux, parce que clairement, des fois, ça alimente chez certains, qui seraient un peu plus sensibles que d'autres, cette forme de compétition, de concurrence et même des fois d'agressivité. Ce qu'on peut faire sinon, c'est faire une équipe enfant dans un jeu ou une équipe adulte. Vous voyez, on essaie de créer, de façonner, de peaufiner ce lien de coopération entre les enfants. Ça, c'est un premier point. Et après, comme je disais, je trouve que le plus gros du sujet de la fratrie, c'est vraiment dans la conflit que ça s'observe. C'est dans les conflits qu'on alimente ou pas ce degré de coopération, de concurrence. Vous voyez, enfin, typiquement, deux enfants face de nous qui sont en train de se... Un grand qui a tapé sur un plus petit, ou des fois c'est le contraire d'ailleurs, hein. Ils ont la force aussi des petits. L'erreur à ne pas faire, mais qu'on fait tous quand on est fatigué, qu'on fait tous quand on n'a pas assez mangé, voilà, c'est de dire, ah là, mais toi, t'exagères, tu l'as fait encore mal, file dans ta chambre, dégage de là, j'en ai marre de toi, t'es vraiment bon à rien, par exemple, le plus grand qui a tapé, par exemple. D'isoler le plus grand, de dire au petit, ah, viens dans mes bras, va juste faire un gros câlin, ça t'a eu mal. Oh, t'as encore la marque sur ton visage, c'est horrible ce que tu as vécu, pauvre petit chéri. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde sait le faire. Mais il faut se dire que le phénomène de compétition, de concurrence, il entre aussi, en fait, quand on rejette l'autre dans sa période de conflit. C'est vraiment important à ce moment-là, de mettre l'accent sur la modération. Et puis, de manière générale, on va éviter aussi, pour éviter cette concurrence, de les comparer entre eux. Genre de dire, ah bah toi, va, au même âge, ta sœur a faisait des gommettes beaucoup mieux que toi, elle est mieux. Enfin, c'est bête, mais on fait aussi naturellement, on compare les enfants. Hein. Ça, c'est naturel, c'est juste, faut pas trop leur dire, quoi.
Est-ce que vous avez des conseils aussi pour aider chaque membre de la fratrie à ce qu'ils trouvent leur place, à ce qu'ils trouvent leur propre individualité ?
Déjà, ce qui est intéressant, c'est de s'efforcer, et j'ai bien tendre vers parce que c'est dur à faire, mais passer du temps en individuel avec chaque enfant. Déjà, ne serait-ce pour qu'il trouve une place auprès de son parent. En fait, du moment que l'enfant trouve une place auprès de sa dynamique parentale, il trouvera facilement une place dans la fratrie. Donc, passer du temps, consacrer du temps, même après la naissance d'un tout petit, par exemple, avec le plus grand, un peu tous les jours, et mieux vaut genre 5 minutes, genre ultra méga qualitative, où on met son portable sur mode avion, bah, comme on fait là, où on n'est pas dérangé, donc vraiment 5 minutes pleines par jour, que un quart d'heure où on est à mi-chemin entre le livreur Amazon qui arrive, portable qui sonne, donc vraiment avoir un temps individuel dédié à chaque enfant dans la journée, c'est quand même pas mal. Mais bon, la vérité fait que des fois on n'a pas le temps. Mais c'est un peu ce qu'on peut préconiser. Et après aussi, chacun aussi son espace dans la maison, dans l'appartement, c'est intéressant aussi. Alors les chambres partagées, ça peut être très bien, mais faut que dans la chambre, chacun ait son espace dédié, son espace de jeu, son espace de sa singularité en fait. Idéalement aussi, il faut avoir les moyens matériels pour le faire aussi.
Ouais, tout à fait. On m'a partagé une situation qui est intéressante. Bon, nous, on est, comme vous le savez, dans le milieu scolaire, donc c'est pour ça que je me permets de vous poser cette question. Comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on accompagne son enfant qui va vivre le saut ou le redoublement d'une classe par rapport à l'un de ses frères et sœurs, et donc potentiellement, ils vont se retrouver dans une même classe, dans la même école.
Ah oui. Et du coup, ils se retrouvent dans la même classe, finalement. Enfin, ça dépend des enseignants, en fait. Mais oui, s'il y a une école avec pas cette classe, oui. Moi, ce qui est pas mal, c'est qu'ils aient chacun leur classe, malgré tout. Je trouve ça plutôt chouette, qu'ils aient chacun leur espace, s'ils le souhaitent. Après, peut-être déjà commencer par leur demander ce qu'ils ressentent par rapport à ça, comment le petit se positionne, comment le plus grand se positionne. Et de manière générale, ce qu'on remarque quand même dans les recherches, soit dans le terrain, dans la vraie vie, c'est qu'en fait, plus on traite les enfants avec empathie et plus on encourage les grands, les petits, la fratrie, à se traiter l'un et l'autre avec empathie, sans se juger, avec beaucoup d'écoute des émotions. Généralement, ça passe un petit peu mieux. Enfin, l'un et l'autre seront plus tolérants par rapport à cette situation un peu nouvelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, oui, tout à fait.
Vraiment l'encourager, en fait, à accepter l'autre et surtout travailler beaucoup sur les émotions de chacun. Enfin, plus on travaillera sur leur intelligence émotionnelle, leurs compétences émotionnelles, plus ce genre de situation, comme d'autres situations, un petit peu comme ça, qui pourraient être compliquées à gérer, passera plus facilement. Je pense par expérience à ce qu'on voit aussi dans la recherche. C'est ça que les questions plus empathiques est clairement un levier d'épanouissement pour tout le monde, en fait, les parents comme les enfants.
Et comment on développe l'empathie chez les enfants ?
Eh ben, en les traitant eux-mêmes avec empathie. En fait, ce qui est marrant, ce qu'on remarque, c'est que, enfin, pareil, c'est la recherche qui le confirme, c'est que le sens de l'empathie est inné, enfin, inné chez l'être humain. Parce que, en fait, du coup, on est fait pour vivre en égrégaire, on est fait pour vivre en communauté. L'être humain est tellement dépendant quand il naît à l'adulte qu'il a été pourvu de sens de l'empathie et de la moralité pour mieux voilà, avoir les privilèges des adultes qui l'entourent. Et en fait, ce sens de l'empathie, du coup, on est avec, on n'est pas méchant, on n'est pas malveillant, on n'est pas tyrannique, comme on peut lire des fois, c'est un bouquin, c'est faux, absolument faux sur un plan scientifique. Donc on est avec cette prédisposition à l'empathie, et on sait que plus les parents traiteront leur enfant avec empathie, donc c'est-à-dire, voilà, avec empathie, c'est-à-dire sans juger, sans violenter, en respectant ses émotions, en respectant un minimum son intégrité, plus cette empathie naturelle se renforcera et s'alimentera à l'âge adulte, et plus les relations de fratrie pourraient aussi du coup être améliorées.
Et j'ai une autre question par rapport justement aux personnes qui font le choix de ne pas avoir de fratrie. Quelles sont selon vous les incidences ? Est-ce que c'est grave de ne pas avoir une fratrie et d'avoir au contraire un enfant unique ?
Non, rien n'est grave, vraiment rien n'est grave, il n'y a pas de modèle idéal. Il faut vraiment que les parents et la société sortent cette idée d'enfants joyeux en groupe.
Ouais.
Ils ne sont pas joyeux en groupe, pas tout le temps. En fait, non, en fait, l'enfant unique comme l'enfant avec frère et sœur, ça a toujours, enfin, les deux modèles, je pense, ont des avantages et des inconvénients. Si on a un enfant unique, l'idée, c'est quand même effectivement de faire fréquenter, d'ouvrir le cercle social de l'enfant, voilà, mais c'est ce que font tout naturellement tous les parents, hein. Ça, de le faire fréquenter beaucoup d'autres enfants, de familles. Généralement, les parents d'enfants uniques se retrouvent plus facilement aussi avec d'autres enfants. Donc, dans tous les cas, l'enfant aura cette vie sociale pour laquelle il est prédisposé et qui lui font aussi beaucoup de bien pour le développement de ses compétences socio-cognitives. Donc, dans tous les cas, et socio-émotionnelles d'ailleurs. Donc, dans tous les cas, finalement, le parent retrouve cette vie en société. Et c'est un avantage et un inconvénient. Enfin, l'avantage, c'est que l'enfant a plus, effectivement, plus de, d'écoute de ses parents, plus d'attention, plus d'exclusivité au niveau de ses parents, ce qui peut provoquer, du coup, des émotions très, très agréables, en fait, hein. Et puis, l'inconvénient, c'est effectivement, il est seul, donc il a moins l'occasion de jouer et moins l'occasion de tester ses compétences socio-cognitives avec d'autres enfants. Donc, les modèles peuvent se comparer, en fait. Il y a pas de, enfin, peuvent s'équilibrer, en fait.
Oui. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire sur les familles recomposées et sur ce que les parents peuvent mettre en place pour que les enfants issus de familles différentes puissent bien s'adapter et cohabiter ensemble?
Ben, ça, c'est sérieux, parce que c'est un modèle qui revient le plus souvent encore, de plus en plus souvent, les familles recomposées. Alors, c'est chouette, d'ailleurs, le modèle de famille évolue complètement. Et c'est alors, en fait, ce qui est bien, en fait, quand on n'a pas vécu avec notre petite enfance, par exemple, avec des enfants, l'action qu'on va mettre en tant que parent, c'est la création de liens. Ça, c'est vraiment important de favoriser la création de liens entre les enfants. Et la création de liens entre enfants, elle passe déjà, petit 1, par le jeu, très clairement. Donc, pareil, on évite les jeux de compétition, hein, genre jeux de loi, jeux de société, genre les petits chevaux, où il y en a un qui perd, qui est au bout de sa vie. On va faire plus des jeux de coopération. Tout ce qui est création de liens, ça passe aussi par les événements qu'on peut vivre ensemble, les émotions partagées. Alors, ça peut être des émotions positives partagées, comme voilà un jeu, une sortie à la mer, des vacances, une fête de Noël, ou ça passe aussi par des émotions désagréables partagées. Enfin, vous avez remarqué dans votre entourage, quand vous créez du lien avec les gens, c'est quand aussi vous avez des émotions fortes que vous partagez avec la personne. Donc, ces émotions-là, naturellement, plus l'enfant va vivre avec la personne, et plus elles vont survenir. Mais ce qui est surtout important, et ça je répète, mais c'est vraiment le leitmotiv, comme je disais dans la recherche, c'est que quand les deux enfants entrent en conflit, donc c'est notre enfant avec l'enfant de la personne partenaire, surtout ne pas surprotéger notre enfant et ne pas donner toujours raison à notre enfant ou à un des deux enfants. Super important. Il n'y a rien de tel pour créer de la mésentente dans la fratrie, recomposer notamment. Et on sort de ce système justicier et on passe dans un rôle plus de modérateur et on encourage chaque enfant à avoir de l'empathie pour l'autre. Pour ça, on les traite d'empathie. Et en période de conflit, on peut dire, voilà, imagine, regarde, tu as fait ça, t'as tapé, là, à ton avis, qu'est-ce qui ressemble à la tristesse, de la colère, pourquoi il a eu peur? Et toi, pourquoi tu as tapé? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce modèle-là qu'on peut vraiment favoriser la création de liens. Et puis, s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne s'aiment pas pour l'instant, bah, et peut-être qu'ils s'entendront mieux par la suite aussi. Il faut leur laisser une chance. La relation se construit avec le temps, en fait.
On arrive déjà à la fin de cet échange. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à partager pour les parents qui nous écoutent et qui sont dans cette dynamique de création de fratrie. Je ne sais pas si vous avez un dernier conseil à partager.
Alors, un dernier conseil, mais je pense qu'on l'a dit, mais c'est juste, chers parents, ne vous mettez pas de pression pour avoir des enfants qui prennent tout le temps. Vraiment, pas de panique, pas de pression. Et on continue avec traiter avec empathie, ça se passera que mieux, en fait.
Merci beaucoup, Héloïse, pour ce partage généreux. Et j'invite mes auditeurs, pour continuer sur la thématique des relations frères et sœurs, à se procurer votre livre « Mon immense petite sœur » aux éditions Hatier. Merci beaucoup, Héloïse. À bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.